Je suis Rigobert Mabundu, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de la République du Congo. Je suis là en ma double qualité et de président en exercice de cette 27e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, mais aussi de ministre de l'Agriculture représentant son pays, parce que nous sommes membres du Conseil en ce moment. Et de bon ordre, je suis obligé de prendre part à ces travaux.
Qu'est-ce qui a donné la confiance de l'Afrique en votre pays, en vous mettant en position de présidence de cette 27e conférence générale? Qu'est-ce qui a donné confiance?
Oui, si je refais la rétrospective de cette élévation à ce poste, je peux retenir trois critères. Le premier, c'est la stabilité du pays. Il faut reconnaître que depuis le retour aux affaires du président Denis Sassou Nguesso, le processus démocratique dans notre pays s'est stabilisé avec des élections qui se passent normalement et un climat général de coopération avec les voisins qui donne également de très bons résultats. Le deuxième critère, c'est la volonté d'intégration qui a toujours caractérisé le président de la République et surtout les institutions de notre pays. Il n'y a qu'à voir le nombre d'initiatives qui sont prises par le président, aussi bien en ce qui concerne la mise en œuvre ou le fonctionnement de la CEAC, de la CEMAC et même de l'Union africaine. Et la troisième chose, c'est la politique que nous conduisons en matière agro-pastorale, dont on sait qu'elle commence à donner quelques bons résultats qui peuvent servir également de base d'inspiration pour les pays voisins en ce qui concerne justement la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté.
Monsieur le ministre, le Congo regorge de ressources naturelles, de ressources minières également. Quel est le message que vous pouvez faire passer pour que ces ressources dont l'Afrique est riche soient mises à la disposition des populations qui en ont le plus besoin?
Oui, ça c'est toute la question fondamentale des stratégies économiques, politiques et sociales. Une chose, c'est disposer des ressources, comme vous l'avez dit, et effectivement l'Afrique en a abondamment. Une autre chose, c'est de les mettre en valeur pour l'intérêt des populations. Et aujourd'hui, il s'agit avant tout des populations qui sont pauvres en Afrique parce qu'elles constituent l'essentiel du lot quotidien, des problèmes que nous avons à résoudre. Et de mon point de vue, il y a deux façons de faire. Il y a d'abord l'identification de ces ressources et la mise à disposition des moyens techniques pour les mettre en valeur pour l'intérêt des populations, soit à partir des ressources nationales, soit à partir de l'investissement direct à l'étranger, ou bien des différents partenariats avec la société civile, avec les entreprises privées, y compris le public lui-même, pour les mettre en valeur. Soit alors, on peut faire confiance à la petite agriculture familiale, et là nous sommes justement dans le cadre de nos différents pays, qui est riche de ses talents, mais aussi de son modèle qui n'est pas productiviste, mais qui tient compte à la fois de l'équilibre de l'environnement, mais aussi des connaissances intrinsèques qu'on a dans nos différents pays, pour essayer de progresser vers une agriculture qui soit moderne, mais en même temps qui conserve les avantages de cette histoire, hein, qui est très très riche de son équilibre, comme je l'ai indiqué. Donc voilà un peu les deux façons de faire, qui soit peuvent se faire de manière divergente, ce que je n'aime pas beaucoup, soit de manière convergente, c'est ce que je préfère, pour faire de telle sorte que les systèmes de production nationaux et historiques donnent une direction pour la prise en compte du potentiel que vous avez évoqué et qui est effectivement important dans nos pays.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller au-delà du discours politique et de la volonté politique?
Trois choses, je pense. La première, c'est le soutien qu'il faut apporter à la petite agriculture familiale en intrant. J'entends par là les semences ou bien quelques produits phytosanitaires, quelques produits chimiques. J'aime pas beaucoup, je préfère les engrais d'origine organique. Bon, ensuite, il y a les financements. Vous savez, l'un des goulots d'étranglement de nos agricultures, c'est le financement parce que l'agriculture demande beaucoup d'argent. La troisième chose, c'est justement les réformes agraires qu'il faut nécessairement conduire pour que ces grandes ressources foncières dont on dispose puissent être mises à la disposition de ceux qui veulent les mettre en valeur et développer l'agriculture. Quoique cela me paraît très très concret. Et quatrième chose, peut-être s'il faut ajouter, il faut que nos économies à travers les différentes législations, favorise l'investissement étranger aussi. Ça me paraît être important pour la création des pôles de développement. Parce que si nous n'avons pas des incitations fiscalo-douanières, si nous n'avons pas des incitations foncières, si nous n'avons pas des incitations en termes de capacité technique d'intervention, au sens de la formation qualifiante, il sera très difficile que l'investissement direct vienne se mettre dans nos pays. Donc voilà, au plan concret, ce qui me paraît être une base structurelle des choses sur lesquelles nous devrons nécessairement toucher pour que nos agricultures ou bien nos économies deviennent à la fois fortes et diversifiées.
Alors, l'Union africaine fête cette année son 50e anniversaire. La FAO est un des partenaires de l'Union africaine de l'Afrique. Est-ce que le message passe au niveau des partenaires, au niveau des bailleurs, au niveau des investisseurs, mais au niveau aussi local? Est-ce que ce message passe que l'Afrique veut aller plus loin, donc elle a besoin de soutien et d'appui dans le renforcement des systèmes?
On peut dire oui, parce que il n'y a qu'à voir le nombre de forats internationaux qui sont consacrés à la question de la lutte contre la faim et de la lutte contre la pauvreté, le nombre de résolutions qui ont été prises au sein de l'Union africaine ou en dehors de l'Union africaine pour favoriser le développement des agricultures africaines, mais aussi parfois le nombre d'initiatives qui sont prises ça et là, que ce soit dans le cadre des organismes des Nations Unies ou bien en dehors, pour solliciter, j'allais dire exiger, le financement de ces différents systèmes de production. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, et ça, c'est un tout petit peu, c'est le regret que nous avons, c'est le décalage qu'il y a entre ces très bonnes intentions, comme par exemple à L'Aquila, comme il y a en 2008 ce grand forum de haut niveau que nous avons eu ici à Rome, où il y avait beaucoup de présidents des différents États qui se sont retrouvés pour présenter des bonnes intentions. Donc décalage, dis-je, entre ces bonnes intentions et la réalité, en termes de financement, en termes, par exemple, de mise en œuvre d'un certain nombre de résolutions, comme Maputo, avec les 10% qu'il fallait consacrer au financement des différentes agricultures. Vous voyez, tout ça montre très bien que on n'a pas encore pris, en termes de politique agricole, de politique économique, la mesure des intentions qui sont pourtant nobles et qui sont elles-mêmes descriptives des situations concrètes qui existent dans chaque pays en matière alimentaire comme en matière de gestion de lutte contre la pauvreté. Au Congo, depuis 5 ans, il faut reconnaître que la première des choses qui permet de passer à une agriculture performante, c'est la volonté politique. Rien ne remplacera en matière de développement agricole, mais aussi de développement en général, la volonté politique, surtout que les études ont déjà montré là où il y a des problèmes. C'est d'abord la volonté politique. Et cette volonté politique est structurée à travers un certain nombre d'actions publiques que l'État mène, aussi bien en ce qui concerne la réforme agraire, comme je l'ai indiqué, qu'en ce qui concerne la modernisation des outils de travail avec le programme de mécanisation que nous conduisons, sur le terrain également du financement. Vous savez qu'au Congo, nous avons des banques qui sont surliquides, mais qui résistent à octroyer des crédits en faveur de l'agriculture au motif que les garanties que présentent les opérateurs agro-pastoraux ne sont pas bancables. Et c'est pour cela justement que l'État s'est substitué à ces banques en mettant en place un fonds de soutien à l'agriculture qui, tant soit peu, soulage ceux des opérateurs agro-pastoraux qui auraient voulu avoir des crédits dans le système institutionnel, mais qui ne peuvent pas l'avoir, qui provisoirement donc essaie de s'adresser à ce fonds de soutien en attendant la mise en place d'une banque agricole qui se trouve en chantier. Mais il y a aussi l'organisation des marchés, parce qu'il ne suffit pas de produire. Il faut aussi organiser la vente de telle sorte que les bassins de production et les foyers de consommation puissent être connectés. Et sur ce plan, il y a un grand projet que nous conduisons de mise en place des hangars de stockage des produits qui viennent de l'intérieur du pays et qui se trouvent sur l'épine dorsale des routes nationales, de telle sorte que maintenant, une collecte de ces produits se fasse sur cette épine dorsale et qu'on conduise ces produits vers les différentes localités où les consommations se font. Mais il y a également un aspect très important, sans lequel d'ailleurs il sera très très difficile de pouvoir avancer de manière conséquente dans le développement agricole, c'est la formation technique, c'est la formation qualifiante. Et nous venons de bénéficier d'un centre de démonstration des techniques agricoles dans le cadre de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo, qui consiste à renforcer les capacités de ceux qui sont déjà dans le feu de l'action agropastorale, qui viennent dans ce centre pour améliorer leurs connaissances, au sens où on essaie de les élever de la culture de la petite agriculture familiale qui les domine vers une agriculture plus moderne, mais qui conserve, comme je l'ai indiqué tantôt, l'avantage justement du respect de l'environnement, de l'appropriation des technologies, mais aussi de la production des cultures qui sont conformes au modèle de consommation de ces différentes sociétés. Donc voilà un peu ce qui se fait au Congo dans un contexte qui permet à la fois de consolider les acquis de la petite agriculture familiale, mais aussi de l'ouvrir vers une agriculture moderne comme les nouveaux villages agricoles qu'on est en train de construire, comme l'intégration des nouvelles technologies dans cette agriculture pour qu'effectivement on l'élève en productivité, mais aussi en gain de productivité sur les marchés.
Le Congo présente un cas assez particulier, c'est un pays dense, très forestier, à un réseau routier très compliqué, où les infrastructures sont un challenge, un défi permanent, et où beaucoup de populations vivent à l'intérieur du pays. C'est une grande contrainte globale. Comment vous réussissez à passer à travers ?
Oui, nous réussissons à modifier justement cette structure bien compliquée. J'aime bien ce mot que vous avez essayé de décrire. À travers ce que nous appelons aujourd'hui le plan national de développement, qui met un accent particulier sur trois choses. D'abord, les infrastructures de base, pour essayer de desserrer l'étau qui pèse sur le pays et qui faisait jusque-là que le pays n'était pas tourné sur lui-même, il était beaucoup plus tourné sur l'extérieur. La deuxième chose, c'est la formation qualifiante, qui non seulement a fait l'objet de la création d'un nouveau ministère, mais surtout cette année, de la priorité donnée à ce que nous appelons l'année budgétaire. C'est vraiment la formation qualifiante. On mettra suffisamment de moyens, aussi bien pour ouvrir les écoles, pour acheter les équipements, pour recruter les formateurs, que pour améliorer les modèles de formation que nous avons en place. Et la troisième chose, c'est justement la possibilité que nous allons nous donner de faire de telle sorte que le processus industriel qui est en cours dans notre pays se fonde avant tout sur les produits agricoles comme matière première, pour donner une impulsion nouvelle à cette agriculture qui trouvera dans cette industrie des débouchés, mais aussi pour donner aux agriculteurs et à tous les autres producteurs une perspective qui les incite à mieux produire aujourd'hui plutôt qu'ils ne l'ont fait hier. Donc vous voyez que le plan national de développement est le cadre programmatique qui permet justement à l'État de développer toutes les impulsions dans le cadre d'une économie qui est une économie privée, mais qui a besoin de l'État en tant que rôle dans son rôle régulateur plutôt, pour permettre à cette économie de progresser et d'aller de l'avant dans la lutte contre la pauvreté. Si bien que cette rencontre qui se fera à Addis Abeba, pour nous est quelque chose de très important, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire le point sur les différentes initiatives nationales, mais aussi de mettre en perspective les efforts de tout un continent qui sera demain, je crois, que le point de mire de l'économie mondiale après l'Asie, et tout le monde le sait. Nous avons déjà à la 27e conférence pris une initiative à travers ce que le président avait annoncé, le fonds de solidarité, le fonds fiduciaire de solidarité, qui d'ailleurs est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Je sais qu'il y a d'autres initiatives. Il faudra donc mettre tout cela ensemble pour que, d'abord, qu'il n'y ait pas trop d'initiatives, mais surtout qu'on recherche à travers celles qui vont être retenues une efficacité de résultat, j'allais dire une obligation de résultat. Et quand nous arriverons là, je pense qu'au fur et à mesure, on se rendra compte que l'Afrique s'unifie en termes d'initiatives à prendre, mais en même temps donne de plus en plus d'espoir à travers le fait que, un, c'est le continent où le taux de croissance est le plus élevé. 2, c'est le continent où le potentiel agro-pastoral est très très important. Et 3, les marges de progrès dont dispose ce continent sont reconnues mondialement comme étant tellement importantes que l'Afrique ne peut plus rater aujourd'hui le rendez-vous de la sécurité alimentaire.